Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors, il leur dit : Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on nous présente ce qu'on appelle le deuxième récit de la création, parce que dans la Bible, nous avons deux récits de la création qui se trouvent dans le même livre, le livre de la Genèse. Le premier récit est celui-là qui parle de l'homme créé, de l'être humain créé à l'image de Dieu. Alors, le deuxième récit, c'est ce que nous venons d'entendre dans la première lecture. En fait, qu'est-ce qui se passe? On peut comparer les deux récits qui, dans le fond, disent la même chose. Dans le premier, l'homme a été créé avec le sceau de Dieu, à l'image de Dieu, avec quelque chose de Dieu. Mais dans le second, Dieu modela l'être humain avec de l'argile. Il était inerte. Alors il a fallu que Dieu ait un souffle en lui, qu'il lui donne le souffle de vie. Alors à ce moment-là, l'homme reçoit la laine de la vie et il peut commencer à vivre. Donc on peut dire que la vie de l'homme, de l'être humain, est venue de Dieu. Alors pour dire que Dieu est présent dans la création de l'être humain. Mais ce n'est pas tout. Dans le premier récit, on disait que Dieu avait donné la responsabilité à l'homme de s'occuper de la création, de travailler, de la multiplier. Dans le deuxième récit, le Seigneur invite l'être humain à cultiver le jardin d'Éden dans lequel il a créé. Il dit, eh bien, travaille, produis le fruit de la terre. Comme pour dire, nous avons la responsabilité de travailler dans ce monde en conformité avec l'esprit du Créateur. Dieu ne nous a pas remis la création pour que nous restions amorphes, inertes, à ne rien faire. Il nous a donné la création pour donner notre responsabilité, nous conduire à travailler avec lui à son achèvement. Et on le fait en rapport avec son dessein. Alors, ce temps qui nous revient aujourd'hui dans le deuxième récit, le temps du paradis, du jardin de l'Éden, comme on l'appelle, eh bien, c'est déjà le bonheur qui est en nous. Dieu nous a créés avec ce bonheur en nous rappelant ce temps qu'on a été en intimité avec lui, qu'on était proche de lui, qu'on a travaillé en conformité avec lui pour conduire la création au bonheur avant le péché. Il y a des psychologues qui nous disent que quand nous sommes dans le désarroi, quand nous passons des moments difficiles, et que nous vivons le regret, parfois nous restons dans le lit et nous nous recroquevillons. C'est comme si on prenait l'état du fœtus. On se rappelle quand on était dans le sein de la mère, on était au chaud, on était heureux. C'est comme si dans l'inconscience, ça revenait cet état-là. En fait, dans notre inconscience spirituelle, nous revoyons l'état du paradis. C'est-à-dire qu'il y a toujours le bonheur en nous, il y a toujours ce désir d'être heureux, de vivre dans la paix, dans l'entente, dans l'amour. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et c'est continuellement vers ce moment-là du début que nous devons marcher, que nous devons évoluer, faire les choses comme le Seigneur a voulu le faire. La dernière chose que je trouve très importante dans le récit de la création, c'est que Dieu plante au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme pour dire, nous étions déjà bien, nous vivons dans la paix, mais il y avait déjà la liberté. Dieu nous a créés avec la liberté. Donc nous vivons dans l'entente, dans la paix, mais il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on ne devait pas toucher. Donc tu as la liberté d'aller le toucher, d'aller prendre le fruit ou pas. Dire que depuis le début, Dieu a créé l'homme et la femme libres et qu'il faut respecter la liberté humaine. Dieu est le premier à la respecter. On ne astreint personne à suivre notre propre volonté. On peut montrer la voie à suivre. Quand la personne au devant de nous résiste, ne veut rien entendre, on respecte le respect, on respecte la liberté humaine. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, une chose est claire. Quelle est la position du christianisme par rapport aux aliments impurs qui étaient si populaires dans l'Ancien Testament? Est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons dire qu'il y a telle nourriture, si tu manques, tu deviens impur? Eh bien, le message est clair. Notre Christ, notre Seigneur, dit non. La impureté, la pureté n'est pas question d'aliments. Ce n'est pas question de boisson non plus. Mais c'est question de cœur, dit-il. C'est ce qui est dans notre cœur, ce qui va sortir de notre cœur, c'est cela qui nous rend pur ou impur. Alors en fait, c'est une invitation à revenir au centre de nous-mêmes en profondeur pour venir voir où nous en sommes. Quand nous prions, quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous saluons une personne, où se trouve notre cœur? Est-ce que notre cœur accompagne nos paroles? Est-ce que notre cœur accompagne nos gestes? Est-ce que nous faisons ces choses-là pour la bonté de notre cœur, pour démontrer notre amour qui jaillit du cœur, ou nous faisons cela par mépris? Alors quand on fait par mépris, quand on fait cela pour détruire l'autre, eh bien, c'est l'impureté, c'est le péché. Alors dans la messe d'aujourd'hui, en fait, nous allons demander au Seigneur de façonner notre cœur, de nous donner son esprit pour que notre cœur tende vers le bonheur pour l'autre, le bonheur pour nous-mêmes, le bonheur pour nos familles, le bonheur pour nos communautés. Que notre cœur désire toujours le bien de l'autre, que notre cœur désire toujours de louer le Seigneur en conformité avec sa parole, qui est cohésion entre notre pensée, nos paroles, avec notre cœur, ce que nous désirons vraiment, que notre cœur soit sincère, généreux. Et seul, on ne peut pas toujours réussir. On aura toujours besoin de cet Esprit du Seigneur pour venir nous purifier de l'intérieur. Et quand on porte l'Esprit du Seigneur et qu'on ouvre la bouche, eh bien, cette parole jaillit du cœur. Elle fait du bien aux autres. Amen.